Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de me trouver ici, dans cet institut que je connais depuis déjà longtemps, puisque je connais mon ami Charles Saïgan depuis plusieurs années, et j'ai été heureux de savoir qu'il prenait la direction de cet institut. Je connais également l'Institut de Londres, où j'ai été invité plusieurs fois, toujours avec un grand plaisir. Également de présenter un certain nombre de réflexions sur un problème qui me semble tout à fait crucial pour les musulmans aujourd'hui, tous les musulmans aujourd'hui. Celui que j'appelle d'une manière un petit peu audacieuse, ambitieuse, critique de la raison islamique. Ce terme de critique de la raison est aujourd'hui à la mode. De la raison politique, par exemple, sur la critique de la raison aléatoire. Et vous connaissez tous, bien sûr, la critique de la raison théorique et de la raison pratique, qui est l'ancêtre de toutes ces critiques en philosophie, et qui est celle de Kant. Je fais tout de suite référence à cela, parce que les musulmans, aujourd'hui, lorsqu'ils entendent le mot « critique de la raison islamique », leur première réaction est de sursauter. Comment oser critiquer la pensée de la raison islamique? Parce que le mot critique est reçu de façon négative. Dans le langage courant français, critiquer, c'est souligner les aspects négatifs. Or, ce n'est pas du tout cela. Le mot critique, en philosophie, est une activité éminemment positive. Le mot critique veut dire rechercher, réfléchir sur les conditions de possibilité pour la raison humaine d'avoir des énoncés valides. Valides en ce sens que si nous confrontons les énoncés de la raison, quels que soient ces énoncés, à la raison, que ce soit la réalité, la réalité mentale, les images mentales que nous portons en nous, que dont les hommes vivent et dont nous parlerons tout à l'heure et qui constituent tout le domaine de l'imaginaire si important et si crucial pour la compréhension justement de toutes ces cultures, eh bien, si nous faisons cette confrontation constante entre les énoncés de la raison et encore une fois, soit les contenus objectifs des choses qui existent indépendamment de nous ou les contenus mentaux qui existent dans notre esprit, nous faisons un travail éminemment positif de contrôle de ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que les musulmans aujourd'hui particulièrement sursautent-ils et ont-ils un premier mouvement de refus lorsqu'ils entendent parler de critique de la raison islamique? Avant d'entamer un travail quelconque critique, il faut absolument convaincre les musulmans de l'utilité de ce travail et de l'aspect fécond et positif de l'islam actuel, de la tradition musulmane, de travail de critique de la raison. Il faut, autrement dit, désamorcer l'hostilité initiale et, en quelque sorte, a priori, que rencontre tout discours critique aujourd'hui concernant l'islam en général, voilà, que ce soit les manifestations actuelles de ce que l'on peut appeler la révolution islamique, les idéologies islamiques, etc. On comprend cette réaction négative parce que les sociétés musulmanes traversent une phase historique qui les oblige à l'hégémonie. La raison hégémonie, qui exerce une hégémonie par ses procédures, par ses réussites, par ses productions intellectuelles et techniques dans le monde, c'est évidemment la raison occidentale. Il faut prendre acte de l'hégémonie de la raison telle qu'elle s'est développée en Occident depuis le siècle. Cette raison occupe tout notre espace, que nous le voulions ou non. Dès que nous voulons étudier une partie quelconque de notre histoire, nous sommes obligés de rencontrer le fait de la pensée occidentale, la méthode historique utilisée par la pensée occidentale, la méthode sociologique utilisée par la pensée occidentale, etc. Sans parler, bien sûr, de l'hégémonie indiscutée de la pensée mathématique, de la pensée technologique, dont la patrie, dont le lieu de naissance est toujours l'Occident. Or, cette pensée technologique, cette pensée mathématique, véhicule avec elle un pouvoir, des pouvoirs, qui passent nécessairement dans l'organisation de notre société et qui passent également dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et dont nous parlons de nous-mêmes. D'où cette situation de domination qui est illustrée aussi par la présence de très grand nombre d'étudiants, d'intellectuels dans les différentes universités d'Occident. Nous nous formons tous en Occident. Par conséquent, cette réaction des musulmans qui, a priori, se méfient d'une critique qui disqualifierait leurs moyens de résistance à cette pensée hégémonique est tout à fait compréhensible. Il ne faut pas la considérer comme venant d'une sorte de fermeture intellectuelle à toute attitude critique. Non, il y a des raisons historiques, des raisons psychologiques, des raisons politiques et culturelles qui font que cette attitude de méfiance et éventuellement de refus peut se justifier, peut se comprendre. Ceci dit, bien sûr, il faut quand même passer au travail et dire que, justement, nous avons un double effort à développer dans notre situation actuelle en tant que musulmans, dans le monde musulman. Le premier effort est justement de maîtriser la pensée occidentale et de ne pas se laisser dominer par elle. Ce qui implique une démarche de connaissance vis-à-vis de cette pensée et non pas une démarche de critique ou de refus polémique, idéologique, comme cela est le cas justement dans le discours islamique contemporain sous sa forme idéologique. Sous sa forme idéologique, par exemple, il y a un rejet sans examen de la production orientaliste. Alors que la production orientaliste, il faut la critiquer, comme je viens de le dire, mais il y a des apports extrêmement importants, des apports positifs qui ne sont pas à rejeter, bien au contraire. De même, pour le reste de la pensée occidentale, dans le discours islamique actuel, dès que vous esquissez un mouvement de critique historique, par exemple, comme nous allons le voir vis-à-vis des textes de la pensée islamique, vous avez un refus immédiat en disant « ça, c'est la méthode occidentale, ça, c'est la manière de penser occidentale. Nous, en islam, nous avons nos procédures particulières qui ont été mises au point par les penseurs musulmans et c'est à ces procédures-là qu'il faut revenir pour parler valablement de l'islam. » Bien, ici encore, je ne dis pas non à cette prétention de recourir à la pensée islamique, aux penseurs islamistes, musulmans, pour étudier la pensée islamique. Mais c'est ici que je dis, soit, revenons donc aux penseurs musulmans Mais revenons-y avec des méthodes modernes, en posant des problèmes, justement, d'accès historique à la pensée islamique classique. Et c'est ici qu'intervient, justement, le projet et le travail que j'appelle la critique de la raison islamique. Alors, pour faire cette critique de la raison islamique, je voudrais dire dès le départ que j'inverse, si vous voulez, l'attitude habituelle que nous avons héritée justement de Kant, qui consiste à limiter cette critique à un niveau philosophique. Je vais même jusqu'à dire, je ne pars pas d'un niveau philosophique, en ce qui concerne justement l'exemple de l'islam. Nous partons d'un niveau historique, purement historique. Nous procédons à une histoire de la pensée islamique, mais à une histoire qui ne sera pas, comme c'est le cas très couramment, encore maintenant, de ce que fait aussi bien l'orientalisme que l'histoire telle qu'elle est écrite et enseignée dans le monde musulman, une histoire que j'appelle linéaire, une histoire descriptive, qui se contente de partir d'une origine, par exemple du Coran, de l'apparition de l'islam, et de décrire une ligne chronologique où l'on énumère les grands penseurs, les grandes œuvres, étape par étape, et où on distingue les différentes périodes, comme vous le savez. C'est ce que j'appelle l'histoire linéaire. L'histoire, c'est une ligne qui se déroule depuis une origine chronologique jusqu'à maintenant. Et cette ligne-là, nous la parcourons en suivant une ligne de crête, c'est-à-dire en nous intéressant aux grands penseurs, en nous intéressant aux grandes œuvres, en faisant par conséquent une sélection dans la production historique infiniment plus complexe et plus nombreuse que ce que les histoires de la pensée islamique nous laissent apercevoir, précisément parce que il y a eu cette sélection. Et cette sélection a commencé depuis longtemps. Et elle a été faite par les historiens musulmans eux-mêmes, dès le Moyen-Âge, puisque, en ce qui concerne justement l'histoire de la pensée, l'histoire de la raison telle qu'elle a travaillé en islam, nous dépendons beaucoup d'une littérature que l'on appelle la littérature hérésiographique, Kutub al-Milal wa al-Nihal, c'est-à-dire la littérature qui fait l'historique de toutes les sectes, entre guillemets, de toutes les hérésies qui sont apparues par opposition à l'histoire vraie de l'islam, qui sera l'histoire de l'islam majoritaire, sociologiquement parlant, l'histoire de l'islam sunnite, qui est considéré comme l'islam vrai, l'islam orthodoxe, alors que la critique de la raison islamique va montrer justement que l'islam sunnite n'est qu'une expression parmi d'autres, théologiquement parlant, philosophiquement parlant et historiquement parlant, n'est qu'une expression parmi d'autres, un usage de la raison parmi d'autres pour exploiter les mêmes données qui se trouvent dans le Coran et dans la tradition prophétique. C'est cela l'apport considérable que vous apercevez d'une critique de la raison islamique. Donc, toute cette littérature hérésiographique qui est si nombreuse, nous allons évidemment la consulter, mais la consulter avec la précaution de l'historien qui va remettre les choses en place et redresser des perspectives historiques. Voilà pourquoi la critique de la raison islamique donc va procéder selon l'approche suivante. Premièrement, une approche historique. Deuxièmement, une approche psychologique. Et troisièmement, une approche anthropologique. À l'issue de ces trois approches, de ces trois enquêtes, on pourra esquisser, dans une direction philosophique, une réflexion sur le statut de la raison tel que nous l'aura montré cette enquête de type historique, psychologique et anthropologique. Et on pourra également entamer un travail absolument neuf à l'intérieur même de la pensée islamique, qui sera celui d'une théologie critique, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, ou du moins soyons quand même modestes et aussi équitables vis-à-vis des efforts de pensée théologique qui ont été développés pendant la période classique. Je pense notamment à l'école des Mu'tazilites qui malheureusement a été marginalisée pour des raisons justement que la critique de la raison va montrer, et également d'autres constructions théologiques, d'autres efforts théologiques, en particulier dans la dimension chiite, qui, comme vous le savez, ont été marginalisés par l'islam sunnite, de même que l'islam chiite, quand il est devenu majoritaire ou puissant, quand il a pris le pouvoir quelque part, il a marginalisé de la même façon l'islam sunnite. Vous voyez par conséquent là toute l'utilité d'une reprise, encore une fois, de tout ce développement en tant qu'historien. J'insiste sur la nécessité de la démarche historique. Parce que l'historiographie musulmane, qui s'est développée, comme vous le savez, pratiquement dès la mort du prophète, cette historiographie a été en général une historiographie officielle, c'est-à-dire liée au pouvoir, liée à l'État, et elle a été également officielle en ce sens qu'elle a développé ou a été solidaire d'une théologie elle-même officielle, ou bien une théologie de l'opposition. Officielle, celle qui a été liée au califat pendant le développement du califat, ou bien de l'opposition, celle qui a été liée à l'opposition chiite, en particulier que ce soit le chiisme d'expression Ithna Ashari, du haut des Sima, ou d'expression ismaélienne. Par conséquent, cette histoire qui a été écrite par les musulmans eux-mêmes, disons jusqu'au XIVe siècle, a été une histoire qui elle-même a développé des attitudes extrêmement orientées, extrêmement rigides sur la manière dont l'islam en tant que totalité historique s'est développé dans les différents pays où cette religion s'est imposée. Et de la même façon, j'insiste sur cette approche historique parce que jusqu'à présent, malheureusement, dans l'enseignement de l'histoire, dans les universités islamiques, l'attitude critique développée par l'histoire telle que la pratiquent les historiens actuellement n'a pas touché les points sensibles, les points névralgiques justement, où doit se développer une critique de la raison islamique. Voilà pourquoi, pour bien accéder à cette critique, il faut discerner les points sur lesquels, les points privilégiés sur lesquels nous devons porter la critique. Les points privilégiés, nous les aborderons en étudiant les données principales qui forment la raison islamique, qui définissent la raison islamique, la notion de raison islamique, pratiquement jusqu'à nos jours, depuis la mort du prophète jusqu'à nos jours. Autrement dit, du point de vue d'une analyse archéologique des principes qui ont orienté le travail et la pensée de la raison en islam, on peut dire que il n'y a pas eu de changement dans cette raison. Il y a une remarquable continuité depuis, encore une fois, l'émergence du phénomène coranique jusqu'à nos jours. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Ça peut vous sembler bizarre, parce que lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous étudions les histoires que nous lisons sur la pensée islamique, on vous dit qu'il y a la période de formation, ensuite il y a eu la période abbasside, ensuite il y a eu la deuxième période abbasside, ensuite il y a eu la période de la scolastique, etc. On distingue des périodes, donc une évolution dans cette histoire. Mais le critère ainsi utilisé pour distinguer ces périodes est beaucoup plus un critère politique lié à la succession des dynasties qu'un critère archéologique qui s'intéresse à l'archéologie du savoir, c'est-à-dire aux principes qui lient la raison dans son travail. Ces principes qui lient la raison, nous allons essayer de les découvrir en étudiant l'axiologie de la raison islamique, les postulats de la raison islamique, les procédures utilisées par la raison islamique et la thématique de la raison islamique. Vous allez voir, que lorsque on s'intéresse à ces quatre aspects, qui sont des aspects tout à fait décisifs et constitutifs de ce qu'il est légitime d'appeler la raison islamique. Vous voyez, ce qualificatif islamique aussi, je ne l'ai pas justifié, et c'est le moment de le faire. Pourquoi dire la raison islamique? La raison, c'est la raison des hommes. En quoi est-elle islamique? Elle est islamique en ce que, vous allez le voir, elle a une axiologie, c'est-à-dire des axes permanents qui orientent son travail. Elle a des postulats qui lui sont propres. Vous allez les voir. Elle a des procédures qui l'apparentent à l'exercice général de la raison. Par exemple, la logique aristotélicienne, elle n'est pas propre à la raison islamique. Mais la raison islamique l'a utilisée d'une certaine façon et elle a réagi à sa façon contre la raison, contre la logique grecque. Et elle a une thématique, c'est-à-dire des thèmes qu'elle privilégie et sur lesquels elle a réfléchi, sur lesquels elle a travaillé. Alors, quelle est l'axiologie de la raison islamique, c'est-à-dire les axes permanents qui orientent le travail et le regard de cette raison, encore une fois, depuis 15 siècles. Le premier axe est défini par ce que le Coran appelle al-mithaq. Le mithaq. Le mithaq, c'est le pacte originel, fondateur de l'alliance, comme dit la Bible, entre le Créateur et la créature. C'est un axe, non seulement de la raison, mais un axe du cœur, comme dit le Coran. Et le concept de cœur est ici tout à fait crucial, parce que psychologiquement, quand on en viendra à l'analyse psychologique du travail de la raison, on va rencontrer le cœur. Et le cœur tel que l'utilise le Coran, c'est à la fois ce que les sociologues et les anthropologues appellent l'imaginaire et ce que nous appelons la raison au sens occidental à partir du XVIe siècle. C'est cela le cœur. C'est le siège de la totalité psychique et psychologique, solidaire et ouvert justement au problème de la connaissance, mais d'une connaissance qui n'est pas éclatée, comme elle va l'être justement dans l'expérience occidentale de la raison. Donc le mithaq, c'est cette alliance-là qui va lier et qui lie de toute éternité le créateur à la créature. Autrement dit, l'homme prend conscience en advenant dans le discours coranique tel qu'il lui est donné, il prend conscience de cette solidarité, de cette alliance. Et il va naître à cette alliance. Autrement dit, c'est une psychologie qui va naître à cette alliance. C'est une attitude de l'homme qui va naître à cette alliance. Et qui va se traduire par cette dialectique incessante qui caractérise le croyant et qui est celle des bienfaits de Dieu, ni'ma, les bienfaits de Dieu faits pour l'homme, et en retour, le choukr, la reconnaissance. La reconnaissance qui va se traduire essentiellement par l'obéissance. Et par toute la liturgie, tout le culte, toutes les ibadat. Ceci est tout à fait constitutif de ce que fera la raison en islam. C'est de là qu'il faut absolument partir. Et une des manifestations de ce mithaq, c'est évidemment la révélation. La révélation comme initiative de Dieu pour les hommes. Et si elle est reçue comme une initiative de Dieu pour les hommes, elle appelle une réponse de la part des hommes. Et cette réponse sera donnée, justement, par toute une attitude de la pensée, donc une attitude de la raison, qui va accorder à la révélation comme texte, comme parole, lisible dans un livre, un privilège constant, et elle tirera de cette révélation tous les aliments de son activité. La raison tirera de la révélation comme texte tous les aliments de son activité. Un autre axe qui est lié évidemment à tout ce que je viens de dire, c'est la vision eschatologique, la finalité de cette saisie de l'homme comme étant liée à un créateur, la finalité, c'est qu'il y a une autre vie qui existe et que la raison accepte comme telle. Elle va travailler dedans. Elle va travailler avec cette vision d'une éternité, la vision d'une autre vie, l'akhira. Et cela déterminera toute la structure éthique de la raison islamique. La structure éthique qui se situe au niveau de ce que l'on appellera le salut et la perdition. Najat ou l'halak. Le salut et la perdition. Ça n'est pas le salut ou la perdition ici-bas, mais dans le temps de l'éternité. Et ceci est, encore une fois, je le répète et j'y insiste, intégré par la raison. C'est à l'intérieur de cette perception d'un temps autre que le temps chronologique de notre histoire que va se dérouler le travail, par exemple, juridique des fuqaha lorsqu'ils vont définir la charia. Voilà pourquoi la question de la psychologie de cette raison est d'une extrême importance pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes coupés actuellement de cette psychologie. Et c'est par cette étude-là, cette archéologie, il faut revenir à l'âge inaugurateur pour retrouver la vérité de soi, la vérité de son histoire et la vérité de son être. Donc là aussi, nous avons quelque chose qui est d'une extrême importance. Il y a d'autres postulats, je n'ai pas le temps de les développer, ce sont tous les postulats relatifs à la possibilité de lire le texte coranique et d'en déduire des significations stables, des significations communicables. Vous allez voir un mufti, vous allez voir un docteur de la loi, vous lui dites, que veut dire ce verset-là ? Il va vous dire, selon l'autorité d'un tel, un tel, un tel, il veut dire ceci. Or aujourd'hui, la linguistique remet en question cette possibilité de dire le sens d'un texte métaphorique et d'un texte symbolique. Car par définition, le symbole est une ouverture au sens, à tous les sens, qui rebondissent sans cesse dans l'existence humaine. Et la métaphore, quand elle est vivante, justement, nourrit cette capacité du symbole à ouvrir sans cesse au sens. Là donc aussi se posent toutes sortes de postulats. Les postulats de la lecture d'un texte religieux et les rapports qu'il y a entre le texte religieux et les lectures de ce texte. Il y a les procédures et la thématique. Les procédures, je viens grosso modo d'en parler à propos des postulats en particulier, mais il faut insister peut-être sur les procédures qui ont été utilisées dans la lecture du discours coranique et son interprétation, et les procédures qui ont été utilisées dans la confection des corpus de hadith qui vont faire autorité à partir du 3e siècle de l'Hégire et du 4e siècle de l'Hégire. Comment est-on arrivé à constituer, par exemple, le corpus de hadith de Kulayni, qui fait autorité pour la tradition chiite? Quel est le cheminement? Quels sont les procédés utilisés pour arriver à ce corpus qui, une fois constitué, va devenir un asl, qui ne sera plus discuté? Il sera consulté comme une autorité et on ne posera plus de questions sur les 3 siècles de sa constitution. De même, le corpus de Bukhari, le corpus de Muslim pour la tradition sunnite. Les mêmes problèmes de constitution de la tradition se posent. Et ici, vous savez qu'il y a un conflit permanent, constant, entre les musulmans d'aujourd'hui et l'orientalisme. Parce que l'orientalisme, depuis notamment Goldziher, s'est intéressé, justement, à ces 3 premiers siècles de cheminement de la tradition. Comment ont été formés les corpus? C'est la question posée par l'orientalisme, parce que l'orientalisme a appliqué à la tradition islamique les méthodes de la critique historique. Mais ici, il faut ajouter que c'est une critique historique qui a été faite à l'aide de la méthode philologique et à l'aide de ce que l'on appelle l'historicisme. C'est-à-dire que l'on s'est intéressé à l'authenticité d'ordre chronologique. On a voulu déterminer si les transmetteurs de tels hadiths, par exemple, ont bien vécu au moment où on dit qu'ils ont vécu. S'ils ont effectivement rencontré les personnes, etc. C'est une enquête sur la matérialité de la transmission. Et on ne peut pas se contenter, bien sûr, de cette enquête. Elle est utile, il faut la faire, elle est pleine d'enseignements, mais pour ne pas justement en rester à ce malentendu qui divise jusqu'à nos jours l'attitude islamique vis-à-vis de la tradition, des hadiths en particulier, et l'attitude de l'orientalisme, il faut dire que à cette critique historique des procédures utilisées par les musulmans pour constituer les corpus, il faut ajouter la critique anthropologique, la critique sociologique du travail qui a été fait pour montrer que cette tradition reflète en réalité la totalité de la culture et la totalité de l'existence des différentes générations de musulmans pour résoudre des problèmes qui intéressaient ces générations au moment où ce hadith a été constitué. Il faudrait également étudier toutes les procédures utilisées dans le kalam, c'est-à-dire dans la théologie, les procédures utilisées dans la science des usul al-fiqh, c'est-à-dire la science de la méthodologie du droit, et étudier les conceptions grammaticales et linguistiques développées par les grammairiens, parce que ces conceptions grammaticales et linguistiques vont commander le travail de l'exégèse. Toutes ces procédures de la connaissance relatives à tout ce que la tradition a nommé les ulum aqliya et les ulum naqliya, c'est-à-dire les sciences traditionnelles et les sciences rationnelles. Toutes ces procédures doivent faire l'objet d'une histoire en tant que procédure pour les situer à leur vraie place et pour montrer les limites des conclusions, les limites des enseignements qu'apporte la raison islamique classique, car tout ce que je viens de dire concerne essentiellement la raison islamique classique. Et j'entends par raison islamique classique celle qui pratiquement a travaillé et a défini à la fois ses postulats et ses axes de la pensée et ses procédures dont je parle pendant les 5 premiers siècles de l'Hégire. C'est cela la raison islamique classique. Nous dirons un mot de la raison islamique face à la modernité ensuite. Alors, en gros, pour la thématique de cette raison islamique, les deux grands termes qui ont commandé les autres, c'est évidemment la révélation d'une part et la prophétie et l'imamologie d'autre part. Ce sont des thèmes majeurs. Le thème qui est extrêmement actuel et qui a été très actuel dans la raison islamique, les rapports entre Din, Dunya, Daoula, cette fameuse trilogie, qui selon la conception islamique, sont absolument liés l'un à l'autre, ce qui entraîne le refus que vous connaissez de toute laïcité en islam, de toute séparation des instances du religieux et du politique en islam. C'est un immense problème. À lui seul, il pourrait requérir de très nombreux ouvrages pour essayer de montrer que c'est une attitude qui a été développée par la raison islamique, si l'on accepte toute l'axiologie telle que je l'ai définie, si l'on accepte tous les postulats tels que je les ai présentés, et si on accepte par conséquent d'en rester au travail accompli par la raison islamique classique. Et si on fait abstraction de tout ce qui a pu se passer d'abord à l'intérieur de cette raison même, parce que à l'intérieur de cette raison il y a eu quand même des forces de contestation. Ce que je suis en train de décrire, c'est la raison islamique stricto sensu. Mais à l'intérieur du climat islamique, dans le climat islamique, il y a eu en particulier la force de la raison philosophique, qui à un moment donné a joué un rôle assez considérable. Au IVe siècle de l'Égypte, la raison philosophique occupait une place très importante et il y a eu un conflit majeur entre justement les représentants de la raison islamique telle que je la décris et les représentants de la raison philosophique. Ça n'est donc pas, si vous voulez, le problème de laïcité ou de la séparation des instances n'est pas une chose qui viendrait exclusivement de l'Occident et qui serait propre à l'Occident et qui aujourd'hui investirait la cité musulmane pour lui imposer quelque chose qui n'appartient pas à sa tradition. Si j'avais le temps, je pourrais vous montrer que c'est, du point de vue historique, totalement contestable. Je suis obligé d'aller vite et de vous dire un mot de la raison islamique face à la modernité. C'est assez compliqué parce que la notion de modernité, surtout quand on en parle en Occident, et nous sommes dans un pays d'Occident, c'est quelque chose qui a l'air d'aller de soi. On sait ce que c'est qu'être moderne, alors que c'est si compliqué. En gros, si vous voulez, je voudrais dire que la modernité dont il sera question dans la critique de la raison islamique, c'est la modernité intellectuelle, que je distingue de la modernité matérielle. La modernité matérielle, c'est notre environnement matériel, notre confort moderne, si vous voulez. Quand vous avez un instrument, vous dites c'est très moderne, ça marche très bien, etc. C'est, tout cela, c'est le côté de la modernité matérielle. Si vous allez en Arabie Saoudite, par exemple, aujourd'hui, vous trouvez les derniers cris de la production technologique, justement, sur le plan de la civilisation matérielle et de la modernité matérielle. Cela, mais si vous consultez les manuels d'histoire et la façon dont on enseigne l'histoire dans les écoles et les universités, vous allez découvrir qu'on est extrêmement loin de ce que j'appelle la modernité intellectuelle. La modernité intellectuelle, pour aller vite, pour moi, c'est par exemple Luther. Secouant en Allemagne l'autorité du magistère doctrinal catholique. Au nom de quoi ? Au nom de la liberté d'examen. Voilà la modernité intellectuelle. La modernité intellectuelle, ce sont les humanistes Erasme et compagnie du moyen du XVIe siècle qui disent, bon, on a fait beaucoup de choses, la théologie, l'humanisme chrétien qui s'est développé au Moyen-Âge, bon, mais il a existé autre chose avant. Il a existé les Grecs et les Romains. Et voilà que l'on découvre l'univers païen, condamné avec les mots que vous savez par la théologie officielle chrétienne. C'est comme si aujourd'hui, on découvrait brusquement que la Jahiliya, que le Coran attaque dans les termes que vous connaissez, représente un moment de la civilisation arabe qu'il faudrait étudier avec passion, la même passion que les humanistes du XVIe siècle ont mise à étudier le paganisme, la mythologie gréco-latine. La modernité, ce sont les philosophes du XVIIIe siècle luttant pour la liberté d'expression et luttant pour la tolérance, etc. La modernité intellectuelle, c'est la révolution copernicienne qui change totalement notre rapport au cosmos. C'est cela, la modernité intellectuelle. La modernité intellectuelle, c'est la manière d'écrire l'histoire, par exemple, aujourd'hui, par rapport à la manière dont on a écrit l'histoire pendant des siècles. C'est tout cela, la modernité intellectuelle. Alors, généralement, lorsque on parle de la raison islamique, face à cette modernité, il y en a qui utilisent couramment le terme d'islam moderne ou le terme de pensée islamique moderne. Quelle modernité ? À l'intérieur de l'Occident, je disais au début qu'il fallait maîtriser les instruments que nous donne l'Occident. À l'intérieur de l'Occident, depuis le XVIe siècle, il y a deux étapes importantes de la modernité. Il y a la modernité de l'âge classique et il y a la modernité de ce que Margaret Mead, un anthropologue américain, appelle l'âge préfiguratif. L'âge préfiguratif, c'est l'âge que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre une préfiguration d'un autre exercice de la raison. Une préfiguration d'un autre mode de connaissance qui n'est pas du tout celui de l'âge classique et qui est encore moins celui de l'âge médiéval. Ce sont des ruptures épistémiques, c'est-à-dire des ruptures profondes dans l'organisation du savoir que la raison assimile pour continuer sa marche. Et la raison islamique, à partir du 19e siècle, a découvert quelques aspects de la modernité de l'âge classique. Mais elle découvre seulement, maintenant, avec beaucoup de peine et dans les crises que nous connaissons, des éléments, des bribes, vraiment des choses très incoatives de cette modernité qui, en Occident, a conquis déjà des espaces assez importants. Il faut donc bien voir cette distinction pour ne pas se laisser entraîner à des définitions trop rapides de ce que l'on pourrait appeler la pensée islamique moderne ou l'islam moderne. Et c'est justement le propos de la critique de la raison islamique que d'éveiller l'attention aux enjeux de la modernité telle qu'elle se vit de nos jours, telle qu'elle se préfigure de nos jours, évidemment au niveau de la communauté des chercheurs, car même en Occident, l'homme moyen, cultivé, ne participe pas tellement à ces débats. Alors, du point de vue de la raison, donc, en islam, vous avez trois étapes. Alors, je retourne à la raison islamique. Vous avez trois étapes importantes qui sont résumées par trois mots arabes, mais que l'on peut appliquer aux autres pays musulmans. Ce sont les mots de la Nahva, de la Thawra, et maintenant, tout récemment, on dit la Sahwa. Je vais vous expliquer ces trois mots. Vous voyez, ce sont trois mots très... rapidement. La Nahva, vous le savez, c'est ce qui a été appelé la Renaissance. La Renaissance arabe et islamique. À partir du 19e siècle, les premières découvertes, les premiers contacts entre les sociétés musulmanes et l'Europe qui venait de vivre sa révolution, en particulier française et les aventures de l'Empire, etc. Autrement dit, les premières découvertes de la raison positiviste occidentale, de la raison historiciste occidentale, qui va donner en particulier du côté turc, chez les Turcs, ce phénomène d'Atatürk avec cette laïcisation qui est une sorte de caricature de la laïcité positiviste telle qu'elle a été produite en Occident. Cependant, du côté de la Nahva, chez les Arabes en particulier, il y a eu un certain nombre d'œuvres qui montrent très bien que c'était la raison positiviste qui influençait l'intelligence arabe, la raison islamique au 19e siècle, et ceci jusqu'aux années 50-60. Par exemple, je citerai le nom de Taha Hussein, qui est connu même des non-arabes, l'œuvre de Taha Hussein s'inscrit absolument dans la raison positiviste telle qu'elle s'exerçait à la Sorbonne dans les années 20 et 30. Et toute la génération d'intellectuels de Taha Hussein a travaillé dans ce sens et a essayé d'appliquer à l'étude de l'histoire et de la littérature, etc., des arabo-musulmans, les méthodes de cette raison positiviste. Ensuite vient la Thawra. La Thawra, c'est la révolution. Mais dans cette révolution, nous avons deux étapes que vous connaissez bien. Il y a l'étape nasserienne, qui commence en 52, et qui était la révolution arabe. Arabe et non pas islamique. C'est très important. Et toute l'idéologie nassérienne est une idéologie laïcisante. C'est une idéologie nationaliste de type là aussi occidental, qui empruntait très peu à l'islam, et même qui a lutté contre les idéologues musulmans, par excellence, qui étaient les frères musulmans. Je vous rappelle qu'il a fait exécuter un des grands leaders des frères musulmans en 1967. Rappelez-vous aussi la politique de Bourguiba au début de l'indépendance de la Tunisie. C'était l'idéologie arabe nationaliste d'inspiration laïque et là aussi de la laïcité de type occidental. Le renversement de ce courant se produira à partir de 1970, mort de Nasser, et début des grands mouvements que l'on appelle aujourd'hui les mouvements islamistes. Et alors, on ne va plus parler de la révolution arabe ou de la révolution socialiste, mais on va parler de la révolution islamique qui aura son apothéose chez nos amis iraniens. En gros. Et voilà pourquoi, dans certains pays musulmans, maintenant, on parle de sahwa. Sahwa, en arabe, ça veut dire reprendre ses esprits. Lorsqu'il y a eu un grand orage, le temps a été bouleversé et puis une belle éclaircie apparaît. Et on dit Shalhal. C'est la Sahwa. Lorsque vous avez bu trop d'alcool, c'est le brouillard. Quand vous reprenez vos esprits, c'est la Sahwa. Et vous voyez comment le terme de Sahwa vient s'inscrire logiquement dans la suite de la Thawra. Aussi bien de la Thawra arabia, laïcisante, que de la Thawra islamia déjà. Et je vous signale qu'au mois de juillet, à Alger, a eu lieu un grand séminaire de la pensée islamique, organisé officiellement par le ministère algérien des affaires religieuses, où sont conviés chaque année des représentants du monde musulman entier. Et ce séminaire, qui est un séminaire international de grande envergure, a eu pour thème la sahwa islamique. La sahwa islamique. Autrement dit, on essaye de reprendre ses esprits pour reconsidérer les étapes historiques que l'on vient de vivre, parce que l'on considère que beaucoup de choses se sont passées peut-être dans le désordre. Vous voyez que j'ai beaucoup trop parlé et en même temps trop peu, parce que je n'ai pas abordé le problème de l'analyse psychologique de cette raison, ni le problème de l'analyse anthropologique de cette raison. En gros, cependant, je voudrais vous dire que l'analyse psychologique est là aussi une deuxième étape tout à fait importante et cruciale dans le projet de critique de la raison islamique. Pourquoi ? Parce que dans les livres que nous lisons, aussi bien sur notre histoire islamique que sur l'histoire de France ou sur l'histoire des Allemands ou sur l'histoire de n'importe quelle nation, il y a ce que l'on appelle un préjugé de rationalité. L'histoire telle qu'on nous la présente se serait déroulée selon une poursuite constante et une présence constante de la raison, de la rationalité. Ce sont des choses qui relèvent de la raison, que nous relatent nos histoires. Et vous ne verrez jamais dans vos manuels d'histoire, dans nos manuels d'histoire, une allusion quelconque au rôle de ce que les sociologues et les anthropologues commencent à appeler l'imaginaire social. L'imaginaire social. On commence seulement à faire ce que l'on appelle de la psychologie historique. C'est-à-dire à se poser le problème des instances psychiques et de la configuration psychologique de l'esprit humain tel qu'il se manifeste dans les cultures anciennes. Quelle est la part de l'imaginaire et quelle est la part du rationnel dans toute cette culture qui s'est développée en islam pendant ces 5 siècles classiques ? D'où résulte ce que nous nommons la culture islamique ou la civilisation islamique. Quelle est la part de l'imaginaire ? Et quelle est la part de l'imaginaire encore aujourd'hui dans les discours islamiques tels qu'ils se tiennent à travers le monde, lorsque ces discours évoquent leur propre passé historique, lorsque ces discours évoquent ou lisent ou interprètent le Coran ou une tradition d'un imam ou du prophète, quelle est la part de l'imaginaire et quelle est la part du rationnel? Voici un chapitre qui est absolument immense, qui nous donne des clés tout à fait nouvelles pour la compréhension de ce qui se passe dans les sociétés. Et pour aborder la société, non pas en tant qu'institution de la rationalité, en tant que production de la rationalité, comme nous le laissent croire encore une fois les historiens classiques, mais comme étant une institution imaginaire, l'institution imaginaire de la société et du social. Ça ne veut pas dire qu'il faut disqualifier tout ce qui se passe dans la société. Ça veut dire simplement qu'il faut revenir à la réalité psychologique des hommes, à la façon dont nous vivons et dont nous percevons notre histoire et les réalités qui nous entourent, et comment nous les interprétons et comment nous les manipulons. C'est tout ce que ça veut dire. Autrement dit, revenir à la réalité. Je ne peux pas insister parce qu'il est tard et je voudrais vous donner la parole, mais je voudrais dire un mot sur alors l'approche anthropologique, qui est également d'une extrême importance. L'anthropologie, vous le savez, ça n'est pas l'ethnographie. Ça n'est pas non plus l'ethnologie. L'ethnographie, nous en avons souffert, nous, dans les sociétés musulmanes. Parce que le regard que l'Occident a porté sur nos sociétés a justement été un regard ethnographique. C'est le regard de la raison positiviste triomphante du XIXe siècle, sûr de sa vérité scientifique, sûr de sa capacité à atteindre la vérité, tout autant que la raison théologique telle que je vous l'ai définie, aussi bien islamique que chrétienne. C'est cette raison-là qui allait porter un regard amusé, dépaysé, sur d'autres cultures et les décrivait comme des cultures attardées qui n'avaient pas encore accédé à cette raison éminente qui était la raison, encore une fois, positiviste. L'anthropologie essaye de poser les problèmes au niveau de la condition humaine. C'est-à-dire par une étude comparée des sociétés et des